Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, la France est-elle trop généreuse en termes de dépenses sociales comparée à ses voisins? C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'OCDE. Nous consacrons, nous, la France, 32% de notre PIB à ses dépenses, retraite, santé, allocation chômage ou familiale. Ça représente évidemment beaucoup, beaucoup d'argent. Alors notre modèle social est-il trop généreux ou au contraire, est-il le socle d'une société plus juste, surtout en ces temps de crise? On en parle donc ce soir avec Mathieu Plane. Bonsoir. Bonsoir. Économiste, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE. Avec Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Et puis on en parle également avec Julien Damon, bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po et auteur de nombreux ouvrages sur la pauvreté, les protections sociales notamment. Alors on va rentrer dans le détail de ce que recouvrent ces dépenses sociales dans un instant. D'abord, je voudrais vous faire partager ce que disait Emmanuel Macron à propos de tout ça en 2018.
On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. On n'en sort pas. Les gens qui naissent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif. On doit mieux prévenir et on doit mieux responsabiliser tous les acteurs.
Alors, le pognon de dingue, c'est 32% de notre PIB, ça fait à peu près 740 milliards d'euros. Est-ce que c'est grave, docteur, j'ai envie de dire, Mathieu Plane ?
Est-ce que c'est grave, docteur ? Ça dépend où on se situe. Je pense qu'on mélange un peu ce que vous avez dit, il y a beaucoup de choses là dans ce débat. Quand on parle de la dépense sociale ou, je sais pas, quand Emmanuel Macron parle du pognon de dingue, je pense qu'il parle vraiment des questions autour des minima sociaux et du débat autour des dépenses sociales liées à la pauvreté, à la redistribution. Or, quand on parle de 32% du PIB, le gros bloc, c'est les retraites et la santé. C'est 80% de la dépense sociale. Ce qu'on affecte à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, ça représente à peu près 1% du PIB.
Oui. Oui.
Donc, si vous voulez, c'est 3% d'adhérence sociale. Donc, il faut quand même savoir qu'on est dans un système où on mutualise beaucoup un certain nombre de dépenses, et notamment les questions de retraite santé, qui sont principalement des financements publics, qui font une singularité française.
Oui.
Sur l'aspect redistribution, on est beaucoup moins singulier. La singularité, elle est vraiment sur les dépenses de retraite.
Mais alors, ce soir, il n'y a pas de tabou, on peut se parler de tout. Hein. Donc, les retraites, la santé, c'est vrai que ce sont les gros postes de dépenses de ces dépenses sociales. Mais quand même, 32%, c'est beaucoup plus que les autres. 29% pour les Finlandais, 29% pour les Danois, 28% pour les Belges. Et le comparatif, toujours avec nos voisins allemands, 25%. Même question, Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est grave ?
Oui, je pense que c'est assez grave parce que, comme le disait le président de la République, on n'a pas l'impression d'en avoir pour son argent. Alors effectivement, son propos était plutôt centré sur la pauvreté. Et quand on écoute ce qu'il disait, il disait un des éléments inquiétants, c'est que les gens qui naissent pauvres restent pauvres. C'est-à-dire la mobilité sociale n'est pas au rendez-vous. Et ça ne dépend pas uniquement du fait de dépenser ou pas dépenser de l'argent public. C'est-à-dire qu'il y a tout un système de formation, d'éducation, de capacité des gens à s'extraire de leur pauvreté. En revanche, il y a deux éléments qui sont effectivement inquiétants. Oui. C'est la santé et la retraite.
Coûte trop cher.
Oui, ça coûte trop cher. C'est-à-dire que, écoutez, sur la santé en Corée, la dépense de santé par Coréen est de 30% en dessous de la dépense de santé par Français. Regardez comment s'est passée la crise sanitaire en Corée et comment elle s'est passée en France. C'est-à-dire tout le monde considère que la crise sanitaire a été relativement bien gérée en Corée, avec en particulier comme conséquence que la richesse créée, le PIB créé en Corée aura été à peu près le même que celui de 2019, alors qu'en France, on aura eu une contraction de 9 à 10% d'après l'INSEE.
Alors,
quant à la retraite, on a 14% qui est consacré à la retraite, oui. Alors qu'au Japon, par exemple, où la population est beaucoup plus âgée et est vécue comme étant l'exemple même d'un pays plus que vieillissant, hein, la dépense de retraite est de 10%. Donc je pense qu'on a un système qui est à bout de souffle et qui est de plus en plus onéreux.
Alors on va rentrer dans le détail des postes de dépenses et des chiffres dans quelques secondes. D'abord, je finis mon tour de table avec Julien Damon, sociologue, professeur associé, je le disais, à Sciences Po. En tout cas, cette idée casse quand même une idée reçue, hein, c'est que la France, non, n'est pas un pays ultralibéral. La France est un pays social, ça on peut le dire, on est tous d'accord.
Cocorico, et dans la course sur le podium quant à savoir quel sera le pays qui a la plus haute dépense sociale, la France, mais ce n'est pas une nouveauté de l'année, ça doit faire une demi-décennie qu'elle a gagné devant ses concurrents danois ou suédois. J'avais fait un autre petit calcul il y a quelques années pour dire que la France était un peu moins de 1% de la population mondiale et un peu plus de 10% de la dépense sociale mondiale. Alors on peut se bagarrer sur plein de chiffres,
ça fait pas mal.
Pouvoir d'achat, etc., etc. Oui, ça fait pas mal, Mais je crois que s'envoyer le chiffre en disant bah, « Regardez, ça fait beaucoup et puis on est les premiers », ça ne doit pas immédiatement donner cette réaction « Ah, c'est nécessairement trop ». Parce que si on regarde les Danois, nos amis danois, ils sont à peu près au même niveau que nous. Et si on regarde leur PIB, qui est en réalité par habitant plus élevé, la dépense sociale par habitant est comparable. Et la grande différence avec les Français, c'est qu'eux sont contents. Nous, on n'est pas contents.
Alors, j'ai juste une question avant de marquer une première pause. Jean-Marc Daniel, répondez brièvement s'il vous plaît, puis après, encore une fois, on rentrera dans le détail. Ce qui est intéressant de comparer, c'est ces dépenses sociales d'aujourd'hui avec celles des années 60. À l'époque, ces mêmes dépenses pesaient 10% de notre PIB. Aujourd'hui, 32%. Pourquoi cette hausse ?
Alors, cette hausse, il y a trois éléments surjoués. D'abord, un vieillissement de la population et une amélioration de la situation des personnes âgées. Dans les années 70, les personnes qui étaient vécues comme étant les personnes les plus fragiles et les moins favorisées par le système, c'était les personnes âgées, alors qu'aujourd'hui, les pauvres qui sont inquiétants dans leur situation, c'est plutôt des femmes d'une trentaine d'années qui vivent seules avec des enfants élevés. Le deuxième élément qui joue, c'est que effectivement, les dépenses de santé ont augmenté parce que, là aussi, l'efficacité du système, la prise en charge du système sanitaire est de plus en plus onéreuse, avec comme conséquence que l'espérance de vie augmente, ce qui d'ailleurs explique pourquoi on vieillit, entre autres. Mais
donc ça veut dire qu'on prend plus, on prend un soin plus important voilà, vous dites
de la population. Donc la population vieillit, les dépenses de santé augmentent parce qu'à la fois elle vieillit et parce qu'on prend mieux en charge. Et le troisième élément, c'est que effectivement, la sécurité sociale s'est élargie. Il y a de plus en plus de choses qui sont prises en charge par l'hôpital, la sécurité sociale, par rapport à ce qui était dans le cas des années 60.
Bien, j'ai ma réponse. On se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite avec le débat du Club des idées qui se poursuit.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h32, le débat du Club des idées suite. Et ce soir, on parle des dépenses sociales qui sont importantes en France comparées à nos voisins. C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'OCDE qui se confirme. Nous consacrons, nous, la France, 32% de notre PIB à ces dépenses. Alors, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est le bon socle d'une société plus juste? On en parle donc ce soir avec nos invités. Alors, je voulais vous poser une question sur la soutenabilité de ces dépenses sociales. Ça représente quand même plus de 700 milliards d'euros chaque année. Ça fait 32% du PIB. Écoutez à ce propos ce que disait Éric Woerth, ministre du Budget en 2016.
Les dépenses sociales, c'est plus de 600 milliards d'euros. Donc c'est grosso modo la moitié des dépenses publiques. Donc on voit bien que ce modèle social, c'est pas un modèle. Pour une bonne raison, c'est que ce modèle social, il est financé par les générations qui vont nous succéder, puisqu'il vit à crédit, puisqu'il provoque des déficits.
Alors, c'est vrai que la France est en déficit structurel depuis 1975. Mathieu Plane, économiste, est-ce que c'est soutenable à long terme, ce niveau de dépenses sociales ?
Alors, il y a beaucoup d'inconnus autour de ça. La soutenabilité, c'est vrai qu'elle peut se poser, surtout sur la question des régimes de retraite, notamment, et de santé, qui sont les deux gros blocs. Ce qu'on disait, c'est 80% de la dépense sociale. Les seules retraites, c'est 50%. Près de 50% des dépenses sociales. Et la trajectoire de soutenabilité, elle dépend effectivement d'un certain nombre de choses. Des pensions à verser futures, ça on le sait à peu près en fonction de l'évolution des personnes qui passent à la retraite, mais surtout des recettes fiscales qu'il va y avoir en face. Et ça, pour le coup, ça dépend d'une dynamique de long terme, d'évolution de la croissance, de la masse salariale, de l'emploi. Et donc, aujourd'hui, on a quand même quelque chose qui va être assez complexe. C'est-à-dire qu'on subit un choc Covid qui est fort.
Oui.
On ne connaît pas tellement la trajectoire d'activité future, parce qu'on peut avoir des conséquences structurelles de cette crise et potentiellement avoir moins de croissance, donc moins de recettes fiscales pour financer ces dépenses sociales et notamment dépenses de retraite. Et puis de l'autre côté, on le voit bien, une accélération du vieillissement, ça on le sait à peu près, qui nécessite de...
Ce qui est acquis, c'est que les dépenses sociales, elles vont forcément grimper avec toutes les mesures mises en place pour soutenir l'économie avec le Covid.
Il y a trois choses. C'est-à-dire que structurellement, on le sait qu'elles vont augmenter avec le vieillissement de la population, notamment sur la santé et les retraites. Ça, c'est pris déjà, ça, on l'a déjà intégré. Mais là, vous avez raison, c'est qu'il y a de nouvelles demandes sociales qui peuvent apparaître avec cette crise. On le voit sur la question de la santé, c'est assez évident. Il y a le problème du chômage et de la pauvreté qui monte. Et effectivement, ça fait partie des allocations importantes aussi pour lutter contre la pauvreté ou le chômage. Donc, on a des dépenses sociales supplémentaires. Donc, c'est vrai que la question qui va se poser à la fin, c'est le financement de tout ça.
Donc, pour financer, Julien Damon, vous êtes sociologue, professeur associé à Sciences Po. Il va falloir forcément faire des économies quelque part ou revoir l'un de ces postes de dépenses, des dépenses sociales. Donc, les retraites, puisque si je vous entends bien, c'est le gros morceau.
Ou tous ces postes, oui. Sur le chiffre sur lequel nous avons été invités, là, les 32% de dépenses sociales à rapporter au PIB. Il faut voir que l'an prochain, ça va être nécessairement beaucoup plus. Pourquoi ? Le PIB s'étant contracté, au dénominateur, nous aurons moins.
CQFD.
Donc, CQFD, on va arriver à 35-40%, peut-être, j'exagère peut-être sur le 40%. 5%. La deuxième chose sur la soutenabilité générale, et après les retraites, il faut voir que le trou de la Sécu, alors le trou de la Sécu, c'est un élément du trou de la protection sociale, ce n'est pas tout le trou de la protection sociale, on l'envisage à 50 milliards d'euros, quand on est optimiste, pour 2020. 50 milliards d'euros, ça ne veut rien dire. Regardons la précédente crise, celle de 2008, on avait atteint en 2 ans le plus haut déficit de la sécurité sociale de l'histoire, 25 milliards d'euros. Il nous avait fallu 2 ans pour faire 25 milliards d'euros de déficit. Là, il nous a fallu 3-4 mois confinement, reconfinement. Okay, on a mis 10 ans à s'en remettre, de 2008 à peu près 2019, quand on était juste à l'équilibre pour la sécurité sociale.
Si vous êtes en train de dire que la situation est grave, je pense qu'on l'a, on l'a tous compris, malheureusement.
La soutenabilité, regardez, ça ne veut pas dire à très long terme. Ça veut dire que sur les 20 prochaines années, les mots qui diplomatiquement ont été employés, c'est incertitude et inquiétude. Ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Donc il faut, en effet, des décisions assez radical sur certains pans de la protection sociale, dont, allez, disons-le diplomatiquement, l'aménagement des retraites.
Donc, quand Bruno Le Maire, qui se fait censer d'ailleurs par Jean Castex et le président de la République, dit avant-hier encore, la réforme de retraite doit être une priorité, il a raison en fait, Jean-Marc Daniel.
Je pense qu'il a raison, mais pas la réforme des retraites qui avait été conçue l'année dernière, qui a fini par devenir un cafarnaum impossible à comprendre, où chaque semaine le gouvernement faisait des concessions, modifiait sa copie et tout ça. Je crois que si on revient à ce qu'on disait dans les années 60, l'âge de départ à la retraite était à 65 ans, il y avait 3 semaines de congés payés, et la durée du temps de travail était de 40 heures. Donc une des raisons aussi pour lesquelles ça coûte cher, c'est parce qu'on travaille moins. Et donc, une des solutions, c'est soit effectivement de baisser les prestations, soit d'augmenter la croissance. Et pour augmenter la croissance, une des solutions, c'est d'augmenter la quantité de travail. Et donc, retarder l'âge de départ à la retraite, ça a le double avantage, d'une part, de réduire le nombre de retraités, et d'autre part, d'augmenter la quantité de travail.
Et si on veut que ça soit efficace, c'est quoi le bon âge ?
Alors, le bon âge, on le voit bien autour de nous, les gens, la plupart des pays européens qui ont une démographie proche de la nôtre, ont entre 65 et 70 ans comme âge de départ à la retraite.
70 ans ?
68 ans, par exemple. On parlait de l'Allemagne, là. Et
l'Allemagne n'est pas du tout la même démographie, quand même.
Oui, absolument. Mais vous regardez en Allemagne, à un moment donné, Mme Merkel avait envisagé de réduire l'âge de départ à la retraite, de l'abaisser, et elle s'est heurtée à une véritable bronca de la part de son opinion publique, qui a dit, écoutez, ne faites pas ça, préservons le système plutôt que donnant à court terme des avantages qui seront finalement à payer pour la génération à venir.
Et à côté de cette réforme nécessaire, si je vous entends, des retraites et un allongement de la durée du travail, faut-il aller plus loin ? Je pense par exemple à l'exemple allemand qui est souvent cité en exemple avec les réformes Schröder qui installa le concept de solidarité exigeante, âge de retraite retardé, faire payer les actes médicaux, mais aussi pour les chômeurs. La règle devient mieux vaut un job pas terrible que le chômage. Le taux de chômage est donc passé de 12 à 5% et les comptes sociaux ont retrouvé leur équilibre. Est-ce que c'est ça qui nous attend dans les années qui viennent, Mathieu Plane ?
Alors, on n'est pas à l'abri de ça. Après, là, il faut savoir qu'effectivement, il y a eu des résultats économiques à long terme. Et il y a eu aussi la face cachée de tout ça. C'est qu'on a un pays où le taux de chômage a baissé, qui a eu de la croissance, qui est compétitif, mais où le taux de pauvreté a augmenté. C'est-à-dire que c'est quand même assez rare d'avoir un taux de chômage qui passe de 10% à 4% avec un taux de pauvreté qui augmente. Donc, il y a aussi cette face cachée. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aussi de solution miracle. Hein, à partir du moment où vous réduisez un certain nombre d'aide ou de minima sociaux. Effectivement, vous allez créer des incitations qui obligent presque certaines personnes à trouver du travail, hein, ou occuper des temps partiels subis. Mais la face cachée, c'est effectivement la gestion de la pauvreté. Aujourd'hui, le système français, quoi qu'on en dise, il est quand même redistributif. C'est-à-dire quand on regarde le taux de pauvreté revenu primaire...
Si vous me dites en même temps, il n'est pas soutenable à long terme.
Non, alors il n'est pas soutenable. Je ne sais pas s'il n'est pas soutenable. La question va se poser. C'est-à-dire, est-ce qu'on souhaite le financer ? C'est-à-dire que c'est aussi un besoin collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cotise, c'est aussi pour garantir une retraite. Alors peut-être qu'il va falloir cotiser plus, peut-être qu'il va falloir faire un effort sur les évolutions des dépenses de retraite, peut-être qu'il va falloir travailler plus longtemps. Tout ça peut avoir des impacts macroéconomiques aussi, hein, parce que si on augmente très vite l'âge légal de la retraite, bah, d'un coup, on va avoir beaucoup de gens qui vont rester sur le marché du travail, ça va poser des difficultés d'insertion des plus jeunes. Or, aujourd'hui, on a une contraction de l'emploi, ça risque de faire du chômage à court terme aussi. Donc vous voyez, il y a plein de choses autour de ça. Tout le monde est pour la réduction de la pauvreté par les revenus primaires, sauf que ça prend du temps, c'est-à-dire c'est par des systèmes de formation, d'éducation, et c'est important. Mais aujourd'hui, le système redistributif français permet quand même de baisser à peu près de 10 points le taux de pauvreté entre les revenus primaires et les revenus secondaires.
Alors, 19h40, vous restez avec nous, Julien Damon, vous réagissez dans quelques secondes, et puis on va aussi parler des aides sociales aux actifs qui font tant parler nos politiques. Faut-il les revoir ? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h41, la suite du débat du Club des Idées. On continue à parler des dépenses sociales qui sont importantes en France. C'est ce qui ressort de la dernière grande étude de l'OCDE. Ça se confirme. En tout cas, la France y consacre 32% de son PIB. Et on en parle donc ce soir avec nos invités. Et je voudrais qu'on s'intéresse maintenant aux aides sociales, aux actifs qui font, je le disais, tant parler nos politiques. Écoutez par exemple Bruno Le Maire, il y a quelque temps, au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.
Expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent et ce ne serait pas juste ni lucide vis-à-vis des Français.
A-t-il raison, Jean-Marc Daniel ?
Alors, je crois qu'effectivement, si on veut faire des économies, il faut faire un tri dans les aides qui ont été consenties. Il y a deux niveaux. Il y a les aides vers ce qu'on appelle les minima sociaux, vers les gens qui sont véritablement en situation de fragilité.
Et mais là, ça représente quand même peu de choses. Hein, oui, sur les 32% de PIB, ça représente 5,3% du PIB.
Oui, absolument. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que la politique qui a été menée depuis l'élection d'Emmanuel Macron a été de relever certains minima, notamment l'allocation adulte handicapé. Et donc, ils rejoignent d'ailleurs Sarkozy, alors que dans la période de Hollande, il ne s'était rien passé sur ce sujet. Mais, donc, il y a cet aspect-là, et puis il y a effectivement l'histoire du pognon de dingue, c'est-à-dire il y a l'efficacité de toutes ces aides qui sont là, normalement, pour lutter contre la pauvreté. Juste pour ajouter une chose, c'est que il y a 25 ans, c'était le plan Juppé.
Oui.
Vous vous souvenez, il y a 25 ans, cette période de l'année, nous étions en train de marcher du fait des grèves, qui étaient les grèves organisées contre le plan Juppé. Le choix qui avait été fait à l'époque, on a beaucoup parlé des régimes spéciaux et de retraite, mais ce qui était important pour moi, c'était une sorte d'accentuation de la nationalisation des dépenses de santé et du système social par l'État. Grosso modo, on vote un objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'ONDAM, et il y a une sorte d'encadrement des dépenses de santé, donc du droit à être malade, qui est défini par le Parlement. C'est une vision du monde, même en Union soviétique, on était moins caricatural. Et donc cette vision du monde est une vision du monde qui, à mon avis, est en train d'échouer. C'est-à-dire cette prise en charge de plus en plus de choses par l'État.
L'État nounou.
Oui, l'effet voilà, est en train d'échouer. Et donc je pense que 25 ans après le plan Juppé, une des questions que l'on doit se poser, c'est cette histoire de pognon de dingue. Pourquoi est-ce que les aides sociales sont aussi peu efficaces? Pourquoi le système de santé a mal répondu à la Covid? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas à hauteur de ce que
les promesses de Julien Damon, sociologue. Juste pour préciser, les aides sociales aux actifs, donc ça représente un peu plus de 5% du PIB français, et ça regroupe les allocations chômage, allocations familiales, dépenses pour invalidité. Et la France, c'est vrai, est bien au-dessus quand même de la moyenne européenne qui se situe à 3,7%. Julien Damon.
Dans la bagarre de chiffres, tout est affaire de nomenclature. Dans ces 5 points de PIB, si on met sur le même plan les dépenses pour l'invalidité et les allocations familiales, on ne parle absolument pas de la même chose. Je pense que ce qui est très important, c'est ce débat sur le pognon de dingue. Oui. Le pognon de dingue qui a fait florès, et certains considèrent que ça concernerait nos 32 points de PIB, ça n'est pas ça. Oui. C'est un point de PIB. Alors on fait des bagarres de PIB, c'est les un peu plus de 20 milliards d'euros de dépenses de minima sociaux. Les minima sociaux sont-ils parfaitement adaptés? La réponse est non. Et les premiers à vous dire que c'est inadapté, c'est ceux qui en bénéficient. Certainement. Et je pense que c'est surtout pas là-dedans que l'on peut faire des économies. Moi, je pense que
donc vous
n'êtes
pas d'accord avec Bruno Le Maire quand il dit expliquer qu'on va réduire les dépenses publiques sans toucher aux aides sociales,
je pense que, l'ayant bien écouté très attentivement, il a dit aide sociale, mais dans son esprit, il pensait à toute la protection sociale en disant ça. C'est pas en picorant 10 euros aux allocataires du RSA qu'on fera quoi que ce soit sur l'équilibre de nos comptes sociaux. C'est en touchant aux retraites.
Que faut-il revoir sur ces aides sociales dans leur ensemble, Mathieu Plane, pour être plus efficaces et efficients?
Alors moi, je n'ai pas du tout la recette. Au contraire, je pense qu'on va rentrer dans une période extrêmement difficile sur ces questions de pauvreté. On le voit, on en a parlé avant là, sur la question de la nouvelle pauvreté qui émerge, y compris chez les commerçants, les étudiants. Se pose plutôt la question de renforcement d'aide sociale, typiquement la question du RSA pour les jeunes. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans une trajectoire de réduction des aides sociales, bien au contraire. Vous avez une explosion du chômage et de la pauvreté. Il se trouve que le système social fait rôle d'amortisseur. Maintenant, la question se posera à long terme. C'est-à-dire, est-ce que ça sera soutenable sur les questions des retraites? Pour le moment, il est quand même là pour essayer d'éviter qu'il y ait une hémorragie. Donc, ça serait quand même assez malvenu de faire des plans de relance à 100 milliards et de réduire drastiquement l'aide pour les plus démunis ou les plus pauvres. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le but
donc
de
vous
Bruno
dites,
Le Maire.
C'est plutôt un bienfait que la France ait autant de dépenses sociales.
Je pense
que c'est un amortisseur en période de crise.
D'abord, ce qu'on appelle l'aide sociale, c'est effectivement 3% de la dépense sociale globale. Donc on parle des 97% restants, où là, on peut réfléchir sur le système de santé. Est-ce qu'il a été efficace dans la crise? Est-ce que l'hôpital fonctionne correctement? Est-ce que les retraites aujourd'hui sont soutenables dans un nouveau monde post-Covid? Mais ça, c'est les gros blocs.
Oui.
Maintenant, sur la réduction de la pauvreté, on parle, une fois de plus, entre 3 et 6% de l'ensemble de la dépense sociale. Donc, c'est-à-dire plus de 90% de la dépense sociale ne s'occupe pas de ces questions-là.
Jean-Marc Daniel.
Oui, je crois qu'il faut véritablement maintenant que l'État fasse la distinction entre son action tout à fait naturelle de lutte contre la pauvreté, hein, c'est donc ce que représente l'aide sociale, ce que représentent toutes ces allocations avec l'idée de réformer les minima sociaux. Il y a eu des rapports auxquels d'ailleurs Julien Damon a participé pour essayer...
D'excellents
rapports. Pour essayer d'harmoniser tout ça, d'essayer de voir où il y avait des doublons. Bon. Et puis il y a toute la partie qui est la partie dans une logique assurantielle, c'est-à-dire l'assurance maladie, comme son nom le dit, l'assurance vieillesse, une logique assurantielle. Et je crois, encore une fois, que le choix qui a été fait au moment du plan Juppé, qui était d'aller vers plus d'étatisation, est un choix qui est un choix mauvais, qu'il faut au contraire aller vers davantage de privatisation, vers davantage d'associations du secteur privé, vers briser un certain nombre de monopoles. Beaucoup de pays ont cassé le monopole de la sécurité sociale. Je ne vois pas pourquoi la sécurité sociale continuerait à garder son monopole. On peut envisager que la sécurité sociale...
Donc vous dites qu'il faut privatiser une partie de nos dépenses sociales. C'est ça ce que vous dites?
Il faut laisser les gens avoir le choix de choisir leur assurance santé, que la sécurité sociale actuelle soit une sorte d'opérateur historique, comme l'a été...
Peu à la finlandaise.
Un peu à la finlandaise, ou à la suédoise, ou à la Suisse, ou il y a tout un tas de pays qui laissent effectivement jouer un facteur concurrentiel dans le financement de la protection sociale et qui sont plutôt bien portés.
Un dernier mot, Julien Damon.
Bon, sur l'actualité immédiate, je crois que la crise du coronavirus a fait des victimes sanitaires, ce sont les personnes âgées. Cette crise va faire des victimes économiques, ce sont les jeunes. Donc il n'y a pas d'économie à faire sur les jeunes, il y a peut-être des économies et de la solidarité du côté des retraités. Et un élément très important, c'est l'âge du départ à la retraite, fixé en 45 à 65 ans quand c'était l'espérance de vie. Donc c'était une escroquerie, les gens, notamment les ouvriers, n'avaient pas de retraite parce qu'ils n'arrivaient pas à l'âge de la retraite. Mmh. Aujourd'hui, l'âge de la retraite est une escroquerie à l'inverse, c'est-à-dire que ça pèse sur des jeunes qui ne pourront jamais partir à cet âge. À la retraite. Et donc, les jeunes, aujourd'hui, ce sont les pauvres, les personnes âgées, sans être des nantis, ce sont des privilégiés de l'histoire, et il faut, à mon sens, traiter, même si c'est un sujet éruptif, ce thème des inégalités générationnelles.
Bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat riche, et on n'a pas fini d'en parler, sur les aides sociales françaises et européennes.